Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. C'est la deuxième de l'année. Nous sommes le 7 janvier 2020. Alors, il y a une chose de bien quand on navigue à un niveau professionnel dans la finance, c'est que l'on se rend compte assez rapidement que rien ne change. Nous avons une capacité indestructible de penser tout et son contraire en l'espace de quelques heures, si ce n'est pas de quelques minutes, et ça, même si on a changé d'année. Si je prends le temps de résumer rapidement la situation dans laquelle nous étions hier matin à 9 h, l'angoisse était palpable et dans l'air, il flottait un certain stress lié au fait que les Iraniens pourraient répliquer et que la probabilité d'une guerre Iran-USA n'était pas à exclure. Hier matin à 9 h, la possibilité d'une guerre mondiale qui avait été mentionnée tout le week-end sur des réseaux sociaux hyper bien informés par des gens qui étaient devenus experts sur le Moyen-Orient en 12 minutes en lisant Martine part en vacances en Iran et Tintin au pays de l'or noir, était déjà mise de côté parce qu'il y a plein de pays sur la planète qui sont moyennement chauds pour entrer en guerre au nom d'un obscur général strictement inconnu jusqu'à la semaine dernière. Par contre, la guerre entre les deux pays faisait peur à certains, mais c'était hier à 9 h du matin. L'Europe commençait donc la journée dans le rouge et y restait jusqu'à la clôture parce que les Américains ouvraient également en baisse pour les mêmes raisons. C'est ensuite que ça a changé de ton, oui, parce qu'il faut dire qu'aux USA, on préfère quand même remonter quand les Européens sont rentrés à la maison. Alors que la nuit tombait en Europe, certains investisseurs ont commencé à se demander si on n'en faisait pas un peu trop avec la guerre en Iran. Certes, c'est gênant de se retrouver encore une fois avec un nouveau conflit au Moyen-Orient, mais en même temps, on se demande bien ce que feraient les Américains sans quelques bonnes guerres dans la région. Ils sont là-bas depuis tellement longtemps qu'on se demande même parfois quand c'est la dernière fois qu'il n'y avait pas de militaires américains dans le quartier. Et puis, quand c'est pas des militaires, c'est la CIA. Il est donc difficile de savoir exactement à quel moment de la journée d'hier on a tourné la veste, mais en tous les cas, à la place de parler guerre et missiles et des 52 cibles en hommage aux 52 otages américains de 79 dont tout le monde se fout, les experts en finance se sont soudainement rappelés que la Fed était super puissante et qu'elle voulait toujours soutenir l'économie et le marché. Je ne plaisante pas, au milieu des références historiques à la haine que se portent les Américains et les Iraniens, alors que tout le monde était sur Wikipédia pour savoir comment on écrivait Soleimani, si c'était un gentil, un méchant ou une marque de machine à laver la vaisselle, quelqu'un a décrété que la Fed était quand même puissante et avait une certaine volonté à soutenir le marché. Je concède, ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute que Trump est en train de nous cuisiner à Téhéran, mais il fallait faire diversion. La suite n'était qu'une formalité, une fois que les intervenants eurent mis de côté le chapitre iranien. Pour le moment, en tous les cas, le marché américain nous offrait son plus grand comeback de ces 3 derniers mois, sachant que nous sommes remontés de moins 0,6% pour clôturer en hausse de 0,35%. Inutile de vous dire que ces 3 derniers mois étaient à peu près aussi palpitants que de se taper la projection en série des 12 palmes d'or du Festival de Cannes de ces 12 dernières années. Peu importe, en fin de séance à Wall Street, on parlait plus que de la Fed qui soutenait l'économie et de l'éventualité que le trade deal entre la Chine et les USA apporte joie et bonheur pendant un demi-siècle et que des 52 cibles que Trump voulait défoncer, et plutôt que ça, plutôt que des 52 cibles que Trump voulait défoncer en Iran. Sans compter que certains prenaient tout de même le temps de se rappeler qu'après pratiquement chaque échauffourée politico-guerrière par le passé, les 12 mois qui suivirent furent placés sous le signe du bull market. Sauf le 11 septembre, mais c'est pas pareil, et sauf la guerre du Yom Kippour, mais comme les Américains n'étaient pas là, pour une fois, n'étaient pas là, ça ne compte pas vraiment. Bref, tout ça pour vous dire que même en 2020, ça fait plaisir de voir que l'on est toujours aussi doué pour tourner la veste à la vitesse de la lumière et que notre capacité à se souvenir reste toujours aussi courte et qu'à ce rythme-là, dans les 5 ans à venir, les profs d'histoire n'auront pour mission d'expliquer aux enfants que ce qui s'est passé la semaine dernière dans les émissions de télé-réalité et de récapituler les fils des tweets des politiciens de ce bas monde. Alors que les marchés américains semblaient vouloir tirer un trait sur le sujet de la guerre en Iran, le pétrole s'est instantanément dégonflé, tout comme l'or. D'un point de vue technique, les deux semblent avoir effectué leur cassure haussière et laissent supposer que c'est pas fini. Mais en attendant, l'or est revenu à 1560 et le baril est à 62,50 alors qu'hier matin, les 65 paraissaient encore à portée de main. Mais forcément, la perspective d'une demi-guerre ne suffisait plus à motiver les troupes, et ce n'est pas le fait que Bolton se répande dans la presse pour exprimer son intention de témoigner contre Trump, son ex-patron, pour le couler dans l'affaire de destitution qui allait suffire à angoisser le marché. Il faut dire que si j'étais juge, je donnerais plus de crédibilité au témoignage d'un serial killer qu'à celui d'un malade mental du niveau de Bolton. D'ailleurs, on peut même se demander qui est le plus dérangé des deux, Bolton ou un serial killer. Ce matin, l'Asie tourne également la veste. Le Japon, qui se faisait défoncer hier, ne se fait plus défoncer du tout ce matin. Il reprend 1,4%, tout comme Hong Kong et la Chine. Et il faut dire que la Chine s'en foutait hier et s'en fout encore un peu plus ce matin. Cela fait deux séances de hausse consécutives à Shanghai et les indices sont en train de clairement casser à la hausse, mais discrètement. Pékin a condamné le comportement de Trump et lui reproche de risquer l'escalade au Moyen-Orient. Mais on sent bien que les reproches sont modérés parce qu'en même temps, on aimerait quand même bien signer le trade deal et que ce n'est pas les Iraniens qui vont relancer l'économie chinoise. Donc on n'est pas content, mais modérément. Et en plus, l'économie locale semble redonner des signes de vie. On ne va donc pas gâcher ça juste pour un type que l'on ne connaissait pas la semaine dernière, à moins de collectionner l'album Panini des terroristes mondiaux depuis 5 ans. Dans les nouvelles du jour, c'est plutôt maigre. On parle quand même et toujours de l'Iran, puisque le remplaçant de Soleimani veut virer les Américains du Moyen-Orient, ce qui ne doit pas surprendre grand monde. Ce qui aurait été surprenant, c'est qu'il propose de construire un nouveau parcours de golf dans la banlieue de Téhéran pour attirer Trump lors de ses prochaines vacances, mais dans un manque total d'originalité, il veut juste virer les Américains. D'ailleurs, on ne cite pas même pas son nom, on dit juste le successeur de Soleimani, pas qu'on s'habitue trop à son nom d'ici qu'il se prenne un drone sur la tronche dans la semaine. Autrement, Bolton est donc prêt à témoigner contre Trump si on lui demande. En Europe, on parle de fusion transfrontalière dans le secteur bancaire. UniCredito et SocGen sont mentionnés. Boeing aimerait bien lancer une émission obligataire pour essayer de se sortir de la crise du 737 MAX. Tesla vient de toucher les 80 milliards de capitalisation boursière en hausse de 76% depuis leur dernière publication trimestrielle et du fait qu'ils ne perdent plus ou moins d'argent. Pendant ce temps, BMW et Mercedes valent un total de 100 milliards à L2. Aramco a perdu 10% depuis que les Américains s'exercent au tir sur les Iraniens. Du coup, on les entend un peu moins sur la plus grosse cape du monde. Et pour le reste, j'ai quand même un peu l'impression que l'on est encore en vacances, que l'on cherche le chemin du fitness et du bureau. De toute façon, on dit que l'année recommence pour de vrai le 15 janvier, histoire de préparer les vacances de février. Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Suisse et en Europe et en Italie. Puis cet après-midi, nous aurons le trade balance aux USA et l'ISM non manufacturier. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,2% et le marché US est à 10 points de ses plus hauts historiques, comme quoi, général ou pas, on est bien peu de choses face à ce monde d'hyper professionnels que sont les financiers mondiaux. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain à la même heure, au même endroit, histoire de commenter le fait que le marché US est au plus haut de tous les temps et que la Chine semble amorcer son décollage. Bon café et à demain.